La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, ce mois d'octobre a été consacré à la philosophie de l'art chez Jacques Maritain à partir de son œuvre écrite en 1920, Art et scolastique, œuvre reprise lors de différentes éditions et à chaque fois augmentée d'annexes et de réflexions. Aujourd'hui, nous invitons Jean-Christophe René. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour Claire et merci de cette invitation.
Et nous allons avoir un débat contradictoire autour de la question de fond. La philosophie de Jacques Maritain est-elle lisible par un auteur non chrétien ? Bonjour Jean-Christophe, très heureuse de vous retrouver pour ce débat contradictoire autour de la philosophie de l'art. Et je vais vous donner la parole sur une première réaction que vous avez pu avoir en ouvrant les pages de Art et scolastique.
Oui, en effet, alors c'est une œuvre vaste si on prend Art et scolastique et l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Je propose donc de nous en tenir pour cette émission à Art et scolastique. Et peut-être en préliminaire, la difficulté qu'éprouverait un lecteur contemporain à la lecture de ces thèses qui sont abordées dans ce livre. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a une difficulté que j'avais d'abord éprouvée lors de la lecture du premier livre de notre précédente discussion, La philosophie bergsonienne, et qui, en ce qui me concerne, tient au mélange inextricable d'arguments philosophiques et d'arguments théologiques. Alors, en ce qui concerne Art et scolastique, et pour résumer très très vite, je dirais que c'est une philosophie de l'art proposée par Jacques Maritain qui s'appuie sur des fondements de la scolastique. Et c'est d'ailleurs par un paradoxe que débute le livre. Jacques Maritain dit « Les scolastiques n'ont pas écrit de traité spécial intitulé « Philosophie de l'art ». On retrouve cependant chez eux une théorie de l'art très profonde, mais il faut la chercher dans des dissertations austères sur quelques problèmes de logique. » Alors, plutôt que d'expliquer pourquoi il a pris ce parti pris à une époque où la psychologie et la psychanalyse étaient déjà en pleine maturité et avaient développé elles-mêmes des théories sur l'art, Maritain présente des excuses quelques pages plus loin et il dit « En nous excusant de l'allure dogmatique ainsi imposée à notre essai et en espérant que malgré leur insuffisance, ces réflexions à propos et autour des maximes scolastiques attireront l'attention sur l'utilité d'un recours à la sagesse antique comme sur l'intérêt possible d'une conversation entre philosophes et artistes. » Alors évidemment, ça laisse un peu perplexe, mais je crois qu'il faut tout de suite peut-être souligner pour les auditeurs que l'art dont il est question dans Art et scolastique est une définition beaucoup plus large que ce qui est sous-entendu aujourd'hui à travers ce qu'on appelle les beaux-arts. En effet, il englobe une partie purement créative et une partie reproductrice. Il englobe à la fois les artistes et les artisans. Et c'est peut-être là l'intérêt qu'y voit Maritain.
Oui, vous avez mis le doigt sur une difficulté du texte soulignée par moi-même dans la première émission sur l'art consacré à Georges Rouault et Art et scolastique. C'est vrai que ce retour à une vision plus large de l'art, c'est finalement pour sortir des beaux-arts et d'une vision esthétique de l'art que Maritain voit comme limitative. Et le passage que vous avez cité est suivi de ces lignes. À une époque où tous sentent la nécessité de sortir de l'immense désarroi intellectuel hérité du XIXe siècle et de retrouver les conditions spirituelles d'un labeur honnête. Il est certain que derrière le mot « labeur honnête », on a « conditions spirituelles » et il parle en régime chrétien. Pour lui, le créateur, c'est d'abord le créateur avec un grand C. Donc il va penser l'artiste artisan à partir de Dieu. Et je comprends tout à fait que pour un lecteur non-croyant, ce soit un frein avec cette formule que vous avez où vous dites finalement il y a une intrication des arguments théologiques et philosophiques qui d'une certaine manière invalide la philosophie, on a envie de la tirer du côté de la sagesse. Donc, je suis très sensible à cette lecture parce que la question de fond, c'est comment faire pour rendre Maritain accessible à nos contemporains qui ont une vision de la philosophie, finalement, depuis la Renaissance, avec pour modèle, finalement, la vérité scientifique, donc relative, changeant de repère, et cette philosophie de l'art, fondée sur cette association entre artistes et artisans, s'intéressant plus au processus créateur qu'à l'œuvre produite, est difficile pour un auteur du XXe siècle. Je pense que là, j'ai fait écho à votre lecture, et au téléphone, en préparant cette émission, vous me faisiez remarquer finalement la difficulté d'admettre, ne serait-ce que comme présupposé, cette référence à un Dieu qui, pour un chrétien, n'est pas forcément, j'allais dire, le même que pour le chrétien voisin, même si l'Église propose un dogme, un credo, une base commune. On voit par exemple entre Gilson et Maritain qu'il y a une différence de perception dans cette philosophie. On pourrait dire que Gisson est plus un historien de la philosophie que Maritain, qui est un philosophe. Et vous me posez la question, d'où vient sa spécificité? Et je pense que le texte de l'art scolastique le donne en plusieurs endroits. Cela vient de la contemplation, de sa vie profonde dans l'horizon, qui lui donne cet ancrage et qui permet à Maritain d'oser dire que la philosophie pourrait être indépendante, autonome et non plus dans un lien ancillaire à la théologie. Alors maintenant, est-ce que son projet est gagné dans la philosophie de l'art? Pour vous, il n'est pas gagné parce qu'il y a trop de mélange entre des références théologiques et philosophiques.
Alors oui, c'est vrai d'une certaine manière. Disons que ce que je vous propose, c'est qu'après l'interlude musical, on en vienne à certains des concepts utilisés par Maritain et hérités de la scolastique afin de voir où, à mon avis, du point de vue d'un lecteur contemporain, ces concepts peuvent poser problème.
Je vous remercie. Donc l'amitié étant très importante pour Jacques Maritain, nous allons écouter une œuvre de son ami Georges Auric, la sonate pour piano en fa majeur.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Nous reprenons après ce début de la sonate pour piano en fa majeur sur la philosophie de l'art en rentrant davantage sur l'apport de la philosophie scolastique pour comprendre l'art, selon Jacques Maritain. Jean-Christophe, vous vouliez mettre l'accent sur des concepts propres à la scolastique.
Oui, en réalité, dans ce deuxième volet, on ne peut pas aborder tous les concepts scolastiques, mais il me semble qu'au moins quatre des concepts principaux peuvent mériter une certaine attention. Il s'agit de l'intellect spéculatif, l'intellect pratique, le rôle de l'habitus et celui de la prudence. En ce qui me concerne, le premier problème tient au fait que les théories scolastiques sur l'intellect dissocient les deux aspects, spéculatif et pratique, et que ne se développe, à mon sens, aucune dialectique entre les deux, du moins dans ce livre où l'art y est essentiellement vu sous l'angle du créateur, c'est-à-dire l'artiste, et pratiquement jamais sous celui du spectateur de l'œuvre.
Oui.
Or, lors de la création d'une œuvre d'art, on ne peut pas ignorer que l'artiste et qui est le créateur est en même temps le premier spectateur et son premier critique. Alors, pour faire le lien entre cet intellect spéculatif et cet intellect pratique, la théorie scolastique s'appuie sur le faire, sur l'acte créateur du logicien ou de l'artiste, agrémenté d'habitus. Alors ici, habitus, il ne faut pas confondre avec l'habitus moderne, celui qui est utilisé en sciences sociales, mais pour Maritain, comme il le dit dans ses pages, les habitus sont les surélévations intrinsèques de la spontanéité vivante, des développements vitaux qui rendent l'âme meilleure dans un ordre donné et qui la gonflent d'une sève active. Alors, voilà typiquement une phrase qui, pour un lecteur comme moi, me met en porte-à-faux avec une difficulté de compréhension, parce que elle fait appel à une métaphysique de l'âme qui paraît difficilement compréhensible à un lecteur contemporain qui n'aurait pas de croyance religieuse. En effet, pour moi, à moins d'admettre une entité supérieure appelée Dieu et qui serait la source ultime de son inspiration, cette théorie n'explique en rien comment l'artiste, qui est un homme comme les autres, est à ce titre le premier contemplateur et juge de ce qu'il produit. Et pour moi, c'est ce va-et-vient incessant qui participe à la création.
Alors, on progresse dans le texte. Il commence par donner une définition finalement de l'habitus en référence à Aristote, puisqu'il met le grec à côté, exis, et il dit: ce sont des qualités d'un genre à part qui sont essentiellement des dispositions stables, perfectionnant dans la ligne de sa nature le sujet en qui elles sont. Et effectivement, ensuite plus loin, on a une définition, j'allais dire plus chrétienne, référencée à l'âme. Et je comprends tout à fait cette gêne dans la lecture, mais le propos de Maritain, c'est de se dire finalement, avec l'incarnation du Verbe, la philosophie a changé non pas de nature, mais d'état, comme une eau qui aurait été glace ou eau, et puis air, gazeux. Et finalement, en changeant d'état, il y a une attention à donner à ce qu'est l'homme, ou du moins à ce pourquoi il est fait, quelle est sa finalité ultime, qui est celle de voir Dieu. Nous sommes in via, et c'est in patria qu'on est fait pour voir Dieu. Du coup, toute cette philosophie de l'art repose sur cette vision. Alors, je comprends tout à fait qu'un lecteur soit dérangé, mais je trouve que le texte est clair et qu'il ne peut pas faire l'économie à un moment de ce maillage presque, pour un lecteur étranger, métaphorique ou manquant de rigueur, alors qu'il renvoie à évidemment une façon d'écrire un peu, j'ose prononcer un mot, mais phénoménologique avant la lettre, ou du moins johannique, selon le quatrième évangile de Saint Jean, qui laisse des interstices de sens pour nous faire entrer dans le mystère. C'est tout l'enjeu de Maritain, sans prendre sur le terrain de la rigueur et de la logique philosophique. C'est comme ça que je reçois son texte, mais je comprends qu'il y ait une autre réception.
Oui, alors donc il y a effectivement des aspects sur l'habitus sur lequel je peux tout à fait m'accorder, en particulier sur cet habitus du geste qui relie en fait le savoir-faire et la pensée de celui qui fait. Et là, effectivement, il y a un aspect phénoménologique que j'admettrai volontiers. Comme vous le soulignez, en fait, ce qui me gêne, c'est de faire des références qui sortent pour moi du cadre purement philosophique en évoquant l'âme comme quelque chose de vivant et donc qui contrôlerait à son tour le geste. Mais disons que pour avancer, il utilise un autre concept que celui d'habitus un peu plus loin. Parce que donc pour lui, l'artiste, c'est celui qui est dans l'intellect pratique, dans le faire. Or, il dit aussi que de manière analogue à son faire, l'artiste se situe aussi dans l'agir. Et dans l'agir, ce qui vient le guider, c'est la notion de prudence. Alors là, il s'agit effectivement de prudence au sens d'Aristote, hein, ça n'a plus rien à voir avec la prudence contemporaine. Et en suivant les scolastiques, Maritain dit que ce sont ces règles de prudence qui font le partage entre l'artisan et l'artiste. Et ce dernier n'étant pas, selon lui, à la recherche de l'argent. Ce qu'il dit est ceci: la prudence ne lui appliquera pas les mêmes règles qu'au laboureur ou au négociant et ne demandera pas à Rembrandt ou à Léon Blois de faire des œuvres qui rapportent. Alors j'ai choisi ce texte-là parce qu'en fait, il fait à la fois une évocation de l'argent à travers les œuvres qui rapportent et qu'il met aussi en parallèle Rembrandt et Léon Blois. Dans un premier temps, évidemment, pour moi, mettre sur le même plateau Léon Blois et Rembrandt, c'est discutable. Et on pourrait se demander pourquoi avoir choisi Rembrandt par rapport à Léon Blois. Mais par ailleurs, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est de dire a priori que l'un et l'autre ne seraient pas à la recherche d'œuvres qui rapportent. Alors, on peut effectivement peut-être le dire pour Léon Blois, mais dans l'histoire de l'art, Rembrandt, comme beaucoup d'autres peintres des Pays-Bas, ne rechignait pas du tout à faire de l'argent avec ses œuvres, et ça n'a pas empêché ses œuvres d'être tout à fait magnifiques. J'ai déjà un premier problème avec cet aspect, on va dire pécunier, c'est qui différencierait le fer de l'artisan du fer de l'artiste. L'artiste étant quelqu'un qui serait par nature désintéressé par l'argent. Bon, ça se discute, on peut se dire. Mais Maritain évoque à ce sujet des conflits qui peuvent naître chez l'artiste. Et la manière dont ils sont résolus, il dit à ce propos, à vrai dire, de tels conflits ne peuvent être abolis que si la toute-puissante onction de la sagesse donne à tout ce qui est en lui le sommeil et la paix de l'amour. Alors là, je dois avouer que, évidemment, quand je lis une phrase comme ça, à nouveau, je pense qu'on sort de la pensée philosophique pour entrer dans une pensée morale et religieuse. Et puis aussi parce que j'ai en tête une série d'œuvres d'art de tout premier plan qui sont plutôt des tourments créateurs que du sommeil et de la paix de l'amour. Voilà le malaise que je ressens en lisant ce genre de lignes.
Alors je comprends, mais je répondrais simplement qu'il s'agirait de finalités différentes. Le conflit entre le prudent, c'est-à-dire l'homme moral, l'homme, et l'art, c'est-à-dire l'artiste, c'est un conflit qu'il va mettre en forme à partir de l'expérience qu'il a de Rouault. Où Rouault est obligé de faire vivre sa famille, d'économiser, mais il a comme finalité de faire du beau, même s'il faut vivre. Alors après, c'est une question de dosage et de finalité. On peut tout à fait peindre la ronde de nuit et savoir que les visages de premier plan rapportent plus qu'au fond. On peut avoir, voilà. Mais on peut mettre en perspective du coup Léon Blois et Rembrandt du point de vue des finalités. Alors après, le sommeil de l'artiste, c'est une question aussi de finalité. Pour Maritain, la finalité de faire de la beauté, de créer dans la beauté, finalement est une finalité sans finalité. On en reparlera plus tard quand nous aborderons l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Mais c'est peut-être voilà, cette perspective de différence de finalité qui peut être une réponse à cette difficulté ou cette réaction de lecture qui se comprend tout à fait. Nous en reparlerons après la deuxième plage musicale, qui est encore une œuvre de Georges Auric, la sonatine dédiée à Francis Poulenc.
Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Jean-Philippe, pour conclure sur une autre notion de la philosophie scolastique, à la lecture de Art et scolastique, écrit en 1920 par Jacques Maritain, que proposeriez-vous ?
Alors, Claire, pour ce troisième volet, je pense que je voudrais essayer d'évoquer le concept de beau et de la pureté de l'art. Donc, Maritain y consacre un chapitre entier. Je pense que c'est un concept important qui, là aussi, à certains moments, peut poser un certain malaise à sa lecture. Alors, je voudrais faire une lecture de ce qu'il y a dans Art et scolastique de l'annexe 2, qui est une conférence de février 1924, quelques réflexions sur l'art religieux. Voici ce que dit Maritain. Ce que je voudrais examiner avec vous très rapidement, c'est l'état actuel des relations entre les artistes catholiques et le public catholique. Nous devons constater ici qu'en général, on n'est pas très satisfait les uns des autres. Et comme dans les querelles de famille, il faut sans doute dire ici qu'il y a des torts des deux côtés. Et plus loin, alors à propos de l'art moderne, Maritain dit, malgré tout ce que l'art contemporain peut avoir de rare et de supérieur dans l'ordre de la sensibilité, de la qualité, de l'intervention, c'est souvent d'une spiritualité bien médiocre, parfois bien corrompue, qu'il est chargé. Donc le malaise, moi, que j'éprouve quand je lis, alors évidemment, il ne faut pas enlever le fait que là, il s'agit d'une conférence dans laquelle il s'adresse à un auditoire chrétien. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, il focalise un petit peu sur ce qui peut cristalliser les dissensions entre chrétiens sur la réception de l'art contemporain de l'époque de Maritain. Mais ce que je voudrais dire, c'est, comme vous l'avez souligné dans vos précédentes émissions, c'est que les Maritains recevaient beaucoup d'artistes chez eux. Et il me semble que ce malaise de Maritain tient au fait qu'il est personnellement intéressé par l'art et qu'en même temps, il fait une critique sur des principes plus théologiques que philosophiques. Du moins, c'est mon interprétation. Voilà. Et enfin, je voudrais signaler un autre problème lorsque Maritain évoque la pureté de l'art, à laquelle il consacre un chapitre complet. Alors, à propos de l'artiste, on peut lire ceci. Il est comme un associé de Dieu dans la facture des belles œuvres, en développant les puissances mises en lui par le Créateur, car tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Alors évidemment, vous doutez bien que pour un lecteur comme moi, une réflexion de ce type-là sort délibérément du domaine de la philosophie, pour nous plonger dans une transcendance religieuse. Je ne nie pas qu'il est devant un auditoire effectivement chrétien, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que lecteur athée, on n'adhère pas. Mais par nature, cette transcendance religieuse, elle est absolument indémontrable.
C'est sûr, c'est certain. En fait, ce qui habite Maritain, c'est la vérité. Et la vérité pour lui, elle est une, c'est le Dieu fait chair, c'est le Verbe incarné. Et cette vision de la pureté dans l'art en découle. Donc il reprend finalement une critique de Claudel contre l'art sulpicien qui est un art académique qui n'apporte rien. Et Maritain termine cette conférence à laquelle vous faites référence, prononcée le 23 février 1924, en disant « Il n'y a pas de règle pour donner à un objet d'art une valeur d'émotion religieuse ». Celle-ci dépend au contraire d'une certaine liberté intérieure à l'égard des règles. On n'y parvient que sans la chercher directement et qu'en participant soi-même, d'une manière ou d'une autre, à la vie spirituelle des saints. Du coup, c'est en régime chrétien qu'on peut trouver cette vie spirituelle des saints, mais ce qui me frappe et qui peut être un dénominateur commun, c'est la certaine liberté intérieure à l'égard des règles. Et là, on est sur un terrain qui peut être commun aux croyants ou aux non-croyants, parce que la liberté, c'est l'apport du christianisme par rapport à l'Antiquité qui insiste sur le fatum, le dieu jupitérien qui commande aux hommes. l'ère chrétienne insiste sur la liberté intérieure, et là, on a un terrain d'entente, j'allais dire, dans la lecture. Je vous laisse la parole pour conclure l'émission, puisqu'il nous reste très peu de temps.
Je suis d'abord tout à fait d'accord avec cet aspect que l'ère chrétienne introduit la première, la subjectivité. Donc on entre là dans une philosophie plus moderne, et c'est peut-être effectivement le point commun. Et pour conclure, je dirais qu'effectivement, nous avons parlé beaucoup d'Arrêt scolastique, un livre qui date de 1920, mais qu'on voit la très grosse différence qu'il peut y avoir avec une œuvre qu'il a produite en 1955, l'intuition créatrice dans l'art et dans la poésie, où effectivement on ne retrouve pas ces terminologies et qu'il aborde, disons, l'art de façon beaucoup plus, de manière beaucoup plus philosophique et de critique de l'art.
Je vous remercie. Le mois prochain sera consacré à la philosophie réaliste elle-même. Accrochons-nous, ce sera un peu difficile. À bientôt, Jean-Christophe.
À bientôt, Claire, et merci de m'avoir invité.
Merci à vous.